Chapitre 2. La nature de la douleur. Egwene se redressa, le postérieur en feu. Presque de la routine, depuis que la maîtresse des novices lui tapait dessus à bras raccourcis. À force, elle se sentait comme un tapis qu'on vient de dépoussiérer. Malgré tout ça, elle tira dignement sur sa robe blanche, puis se tourna vers le miroir en pied et, très calme, tamponna les larmes qui perlaient au coin de ses yeux. Une seule dans chaque œil, cette fois. Quand elle eut souri à son reflet, la jeune femme hocha la tête. Et sa jumelle lui témoigna, elle aussi, sa satisfaction. Dans la glace, une pièce au mur lambrissé de bois noir se reflétait. Un endroit sinistre, vraiment. Avec un solide tabouret dans un coin, l'assise brune et lisse après des années d'usage, et un bureau massif où trônait l'épais registre des punitions de la maîtresse des lieux. La table étroite placée derrière Egwene se révélait vaguement sculptée, mais son rembourrage en cuir était une caractéristique bien plus frappante. Une kyrielle de novices et plus d'une acceptée s'étaient retrouvées pliées en deux sur cette table pour recevoir leur châtiment. La couleur délavée du bois, songea Egwene, avait peut-être pour cause les larmes de ses pauvres filles. Pour sa part, elle en avait versé des torrents. Mais pas aujourd'hui. En tout, deux pareils, ni plus ni moins, et aucune n'avait roulé sur ses joues. Non qu'elle n'ait pas senti la douleur, au contraire, son corps entier la mettait à la torture. Comme de juste, plus elle défiait le pouvoir au sein de la tour blanche et plus on la passait à tabac. En réponse, elle s'était endurcie, rétablissant en somme l'équilibre. Pas encore capable d'accueillir la douleur, à l'instar des aïels, elle aurait juré ne plus en être très loin. Durant la pire séance de torture, un aïel pouvait être plié de rire. Elle en était encore qu'à sourire après son calvaire, mais ça finirait par venir. Chaque coup encaissé équivalait à une petite victoire, et même quand ça faisait un mal de chien, vaincre était toujours une occasion de se réjouir. Derrière la table, Sylviana contemplait mornement la ceinture de cuir qu'elle tenait encore. Sur son visage carré et sans âge, on lisait de la perplexité. La ceinture, elle la lorgnait comme on regardait un couteau qui refuse de couper ou une lampe qui s'entête à ne pas s'allumer. Comme en témoignait l'ourlet de sa robe grise toute simple et son châle aux franges rouges, la maîtresse des novices appartenait à l'âge à rouge. Grande et costaude, elle portait ses cheveux noirs en chignon. Sous plus d'un aspect, Egwene la tenait pour une excellente maîtresse des novices, même si elle lui avait flanqué un nombre grotesque de corrections. Ou peut-être à cause de ça, justement. Sylviana faisait son devoir. Dans la tour, ces derniers temps, très peu de sœurs pouvaient s'en vanter. Sylviana leva la tête et croisa le regard d'Egwene dans le miroir. Posant la ceinture, elle fit disparaître toute émotion de ses traits. Sereine, la prisonnière d'Elaïda se retourna. Surprise des surprises, Sylviana lâcha un gros soupir.
« Quand vas-tu enfin renoncer, petite? Tu défends admirablement bien ta position, j'en conviens, mais ça ne m'empêchera pas de te punir jusqu'à ce que tu cèdes. L'ordre doit être maintenu à tout prix. »
Egwene cacha sa surprise. Sa tortionnaire s'adressait rarement à elle, sauf pour lui donner des consignes ou lui passer un savon. Mais ce n'était pas la première fois que la belle façade se lézardait.
« L'ordre, Sylviana? Tu penses qu'il est maintenu quelque part ailleurs dans la tour ?»
La maîtresse des novices eut un rictus, puis elle se détourna et nota quelque chose dans son registre.
« Je te verrai demain matin. Tu peux aller dîner. »
La séance du matin, ce serait pour avoir utilisé le prénom de la sœur sans ajouter « Sedai ». Et parce que Sylviana savait très bien que sa victime ne la saluerait pas en partant.
« Je reviendrai demain matin, mais le dîner attendra. Ce soir, je dois faire le service pour Elaïda. »
Cette séance avec Sylviana s'était éternisée à cause d'une liste d'infractions longues comme le bras. Du coup, Egwene n'aurait pas le temps de manger. À cette perspective, son estomac se révoltait. Sylviana eut un infime moment de surprise.
« Et tu ne m'en as pas informé ?»
« Si je l'avais fait, ça aurait changé quelque chose ?»
Sylviana éluda la question.
« Tu mangeras après avoir servi la chair d'Amirline dans ce cas. Je dirai à la maîtresse des cuisines de t'essayer de quoi dîner. Avec le nombre de guérisons que tu subis ces derniers jours, petite, il faut que tu te restaures. Sinon tu finiras par t'évanouir d'inanition, et je ne veux pas de ça. »
Austère mais juste. Dommage qu'une telle femme ait opté pour l'âge à rouge.
« Très bien, »
fit Egwene.
« Après ton repas, tu reviendras me voir. » Pour avoir manqué de respect à la chair de Merlin. Pour toi, elle ne peut en aucune circonstance être appelée Elaïda.
Se tournant de nouveau vers son registre, Sylviana ajouta.
« Et qui sait combien d'infractions tu vas encore commettre ce soir ?»
Une fois sorti du bureau, dans le couloir aux dalles grises et rouges, Egwene réfléchit à la dernière phrase de Sylviana. Entendre que sa victime allait devoir servir Elaïda ne l'avait peut-être pas surprise, mais émue. Quand Egwene lui tiendrait tête, comme à toutes les autres sœurs, l'usurpatrice ne le prendrait sûrement pas bien. Était-ce pour ça que Sylviana avait décidé d'une ultime séance après le repas? Avec les ordres qu'elle venait de recevoir, Egwene serait obligée de manger avant de retourner dans le bureau fatidique. Et ce, même si Elaïda lui infligeait une ou plusieurs pénitences. Une très petite attention de la part de Sylviana. Pourtant, la prisonnière lui en fut reconnaissante. Subir des punitions en série était déjà assez dur, s'il fallait en plus se passer de manger. Deux sœurs rouges, Catherine et Baracine, approchèrent de la jeune femme. Dans la main de Catherine, Egwene remarqua une coupe d'étain. Une nouvelle dose de fourche racine. Elaïda entendait s'assurer qu'elle ne puisse pas canaliser pendant son service, semblait-il. Sans protester, Egwene s'empara de la coupe et la vida, sentant le goût de menthe discret mais caractéristique. Quand elle tendit le récipient à Catherine, la sœur rouge fut bien obligée de le prendre, ramenée au statut de porteuse de coupe royale. Amusant, ça. Egwene ne se dirigea pas tout de suite vers les quartiers d'Elaïda. En se prolongeant au-delà de l'heure du dîner, sa séance de torture, paradoxalement, lui avait laissé quelques instants de liberté. De plus, elle ne voulait pas arriver en avance, ce qui aurait été une marque de révérence envers l'usurpatrice. Du coup, elle resta devant la porte de Sylviana, en compagnie des deux sœurs rouges. Une certaine femme viendra-t-elle bientôt remplacer la prisonnière sur la table rembourrée? Dans le lointain, de petits groupes de sœurs allaient et venaient dans les couloirs. Furtivement, comme des lièvres qui s'aventurent dans une clairière pour grignoter une feuille, mais sans cesser de craindre le prédateur tapis dans les ombres. Désormais, les sœurs portaient en permanence leur châle, et elles ne sortaient jamais seules. Certaines s'unissaient même à la source comme si elles craignaient d'être attaquées par des voyous au sein de leur tour.
« Tout ça vous fait plaisir ?»
s'entendit demander Egwene. Elle étudia Catherine et Baracine. Pure coïncidence, elle faisait partie du groupe qui l'avait capturée.
« Qu'ai-je entendu, ma fille ?»
demanda Catherine, glaciale.
« Tu t'es adressée à une sœur sans qu'elle t'ait posé une question? Serais-tu donc avide de punition ?»
Contrairement à bien des autres sœurs, Catherine était presque exclusivement vêtue à la couleur de son aja. Egwene ignora la menace. Quel mal de plus pouvait-on lui faire?
« Oublie un moment ton agressivité, Catherine, »
dit-elle, en regardant passer un groupe de sœurs jaunes qui accélérèrent le pas dès qu'elles virent leurs deux collègues rouges.
« Oublie les crises d'autorité et les menaces. Et regarde autour de toi. Tu aimes ce que tu vois? La Tour Blanche a attendu des siècles pour qu'une sœur rouge soit de nouveau élue, chère Damirline. Et cette dirigeante, qu'a-t-elle fait à la tour? Des sœurs qui marchent en groupe, sans croiser le regard de celle d'un autre aja. On dirait qu'elles sont en guerre les unes contre les autres. »
Catherine siffla de mépris, mais Baracine sembla plus hésitante. Par-dessus son épaule, elle regarda les sœurs jaunes qui fuyaient le secteur, certaines jetant des coups d'œil en arrière pour s'assurer qu'on ne les suivait pas.
« La chère Damirline n'y est pour rien, »
lâcha Catherine.
« Les coupables, ce sont tes renégates, de maudites traîtresses. »
« Mes renégates ?»
nota Egwene avec un petit sourire mental.
« C'est comme ça que tu me vois désormais.
Plus comme une gourde d'accepté qui s'est fait rouler dans la farine. Un sacré progrès. « C'est nous qui avons renversé une chaire d'Amérine légitime ?»
demanda Egwene.
« Nous qui avons retourné des champions contre des champions ? Nous qui n'avons pas contrôlé le dragon réincarné ? Avons-nous choisi une dirigeante avide de pouvoir au point de se faire construire un palais à côté de la tour ? Une dirigeante si despotique que toutes les sœurs redoutent d'être dépouillées du châle sans raison ?»
Comme si elle s'avisait qu'on ne polémiquait pas avec une vulgaire novice, Catherine ne répondit pas. Les yeux ronds, Baracine observait toujours les sœurs jaunes paniquées.
« Je suis convaincue, » continua Egwene, « que les sœurs rouges ne doivent pas couvrir Elaïda, mais la critiquer, au contraire. Parce que son héritage sera le leur. N'oubliez jamais ça. »
Catherine la foudroyant du regard, Egwene lui réprimait un mouvement de recul. L'envoi de sa tirade poussait peut-être un peu loin le bouchon.
« Ce soir, ma fille, tu rendras visite à la maîtresse des novices. Tu lui raconteras avoir manqué de respect à des sœurs et à la chère d'Amirline en personne. »
Egwene ne répliqua pas. Voilà ce qui arrivait quand on perdait son temps à tenter de convaincre des sœurs rouges. Dans son dos, la porte du bureau se ferma avec un bruit sourd, le courant d'air faisant onduler les tapisseries murales. Egwene en sursauta de surprise. Sans s'en apercevoir, elle avait laissé le battant entrouvert. Sylviana avait-elle entendu la conversation? L'heure de trénasser était révolue.
Apparemment, Alviarine n'avait pas de rendez-vous. Pourquoi? Et où était-elle? En principe, elle remplaçait Egwene dès que sa séance était finie. Secouant la tête, la prisonnière partit d'un pas vif dans le couloir. Comme de bien entendu, les sœurs rouges la suivirent. Désormais, elle ne la lâchait presque plus. Sauf quand elle allait suivre un cours dans les quartiers des autres ajats. Egwene tenta de faire comme si ces deux Aes Sedai étaient une escorte, et non un duo de geôlières. Tant qu'à faire, elle s'efforça aussi de dissimuler la douleur, dans une certaine partie de son anatomie. Tous les signes indiquaient qu'elle était en train de gagner sa guerre contre Elaïda. Le matin, au petit déjeuner, elle avait entendu les novices gloser sur l'incroyable échec de l'usurpatrice, alors qu'elle tenait rang entre ses mains. Remontant à des mois, cet événement aurait dû être secret. On commentait aussi les rumeurs selon lesquelles les Achamans auraient lié des sœurs venues pour les détruire. Une autre initiative d'Elaïda dont personne n'aurait dû avoir entendu parler. Comme en ce qui concernait l'injustice faite à Chemerine, Egwene avait procédé par étapes prudentes, pour bien ancrer ces deux scandales-là dans l'esprit des novices. Car tout ce qui était dit par ses filles finissait un jour par tomber dans l'oreille des Aes Sedai. Oui, Egwene gagnait, ça ne faisait aucun doute. Mais ce triomphe ne la réjouissait presque plus. Qui aurait pu se satisfaire de voir les Aes Sedai se désagréger comme une très vieille tapisserie? Qui se serait félicité que Tar Valon, la plus grande cité du monde, soit devenue une décharge à ordures géantes? Même si elle détestait Elaïda, Egwene n'exultait pas devant le spectacle offert par une chair d'Amerlin incompétente à ce point. Ce soir, elle allait se trouver en présence de l'usurpatrice. Pour ne pas arriver en avance, elle ralentit le pas. Comment devrait-elle se comporter durant ce dîner? Depuis son arrivée à la tour, 9 jours plus tôt, elle n'avait même pas aperçu son ennemi. Faire le service à sa table serait hautement dangereux. Si elle l'offensait trop, la marge serait incroyablement étroite, elle risquait de finir la tête sur le billot. Pourtant, impossible de ramper et se prosterner. S'incliner devant cette femme? Pas question. Même si ça devait lui coûter la vie. Après avoir négocié une intersection, Egwene s'arrêta net, manquant trébucher. Devant elle, le couloir s'arrêtait brusquement sur un mur orné d'une peinture. L'image représentait une chair d'Amerline du passé, sur un siège rehaussé d'or, une main tendue en signe d'avertissement pour les rois et les reines. La plaque de cuivre, sous l'image, indiquait qu'il s'agissait de Karaegan Makonar, lorsqu'elle avait mis fin à la rébellion de Mos Hadorin. Egwene se souvint d'avoir aperçu cette peinture, la dernière fois, sur un mur de la bibliothèque. Mais alors, un masque de sang ne remplaçait pas le visage de la dirigeante. Et les pendus, à l'arrière-plan, n'étaient pas là. Catherine s'arrêta à côté d'Egwene, les traits fermés. À la tour, personne n'aimait évoquer l'étrange balai des salles et des couloirs, qui changeaient de place à leur guise. Ces phénomènes rappelaient aux sœurs qu'il y avait dans le monde des pires horreurs que l'insubordination face à une dirigeante. Pour la première fois, Egwene voyait en même temps un couloir déplacé et une image altérée. Le ténébreux touchait le monde et la trame entière en tremblait. Se détournant, la prisonnière s'éloigna de l'image sanglante. Pour le moment, elle ne pouvait pas s'occuper de ces aberrations. Afin de briquer le sol, on choisissait un point de départ, puis on se mettait à l'ouvrage. Egwene avait depuis longtemps décidé par où commencer, la réunification de la tour. Le détour dû au couloir contrariant risquait de lui prendre du temps. À contre-cœur, elle pressa le rythme. Pas question d'être en avance, mais un retard ne l'aurait pas satisfaite non plus. Ses geôlières se hâtèrent aussi, leurs jupes bruissant tandis que le trio remontait une enfilade de couloirs. À un croisement, Egwene aperçut Alviarine, tête basse, en chemin pour le bureau de la maîtresse des novices. Donc, elle avait bien rendez-vous, comme tous les soirs. Mais qu'est-ce qui l'avait retardée? Après 2 couloirs de plus et une volée de marches, Egwene déboula dans les quartiers de l'Aja Rouge, le chemin le plus court pour gagner les appartements de la chair d'Amirline, en hauteur. Faisant écho aux dalles rouges du sol, des tapisseries écarlates annonçaient la couleur. Les sœurs qui allaient et venaient, l'air sévère, arboraient toutes leurs châles. Ici, dans leur fief, où elles auraient dû être en confiance, elles semblaient méfiantes et mal à l'aise, même vis-à-vis des serviteurs, reconnaissables à la flamme de Tar Valon brodée sur leur poitrine. Egwene avança, en regrettant d'être obligée de devoir aller vite, car ça pouvait laisser penser qu'elle était soumise. Mais elle ne pouvait rien y faire. Parvenue au centre de la tour, elle gravit d'interminables volées de marches, avant d'atteindre le couloir qui menait au quartier de la dirigeante. Entre les corvées, les leçons et les pénitences, elle n'avait guère eu le temps de préparer sa confrontation avec l'usurpatrice, la femme qui avait renversé Siouan, puis fait battre Rand comme plâtre. Comme si ça ne suffisait pas, elle avait conduit les Aes Sedai au bord du gouffre. Elaïda allait connaître l'ire des Gwen. Humiliée et honteuse, elle serait contrainte de... La prisonnière s'arrêta devant la porte surchargée de dorures de sa rivale.
Non.
Imaginer la scène était facile. Elaïda, folle de rage, et son accusatrice jetée dans une cellule obscure. Quel bien ça ferait! Cette femme, Egwene ne devait pas l'affronter, du moins pour l'instant. Car ça reviendrait à s'offrir un moment de jubilation en échange d'un échec humiliant. Certes. Mais elle n'allait quand même pas se prosterner devant Elaïda. La vraie chère d'Amérline ne pouvait pas s'abaisser à ça. Vraiment? Une dirigeante devait faire ce qui s'imposait. Le plus important, c'était quoi? La tour blanche ou sa petite fierté? La seule façon de remporter cette guerre serait de laisser croire à Elaïda qu'elle vaincrait. Non, de lui laisser penser qu'il n'y avait pas de guerre. Et Gwen pouvait-elle se retenir assez longtemps pour survivre à cette soirée? Elle ne l'aurait pas juré. Pourtant, au terme de ce dîner, il fallait qu'Elaïda se sente dans la peau d'une gagnante, certaine que sa prisonnière était brisée. Le meilleur moyen d'atteindre cet objectif sans y perdre toute sa dignité serait de ne rien dire. Un mutisme absolu. Une arme dévastatrice ce soir. Mobilisant toute sa volonté, la prisonnière frappa à la porte. À sa grande surprise, une Aes Sedai vint lui ouvrir. Elaïda n'avait donc pas de servante pour ce genre de tâche? Si Egwene ne connaissait pas cette sœur, son visage sans âge ne laissait planer aucun doute. Comme son châle le signalait, la femme appartenait à l'âge gris. Plutôt mince, elle arborait une poitrine opulente. Des cheveux noirs cascadant dans son dos, elle avait le regard voilé, comme si elle subissait une écrasante pression. Elaïda attendait, assise à une table. Sur le pas de la porte, Egwene hésita. La première fois qu'elle revoyait sa rivale depuis qu'elle avait quitté la tour avec Nineveh et Elaine pour partir à la poursuite de l'âge noir. Un moment décisif qui semblait remonter à une éternité. Belle et majestueuse, Elaïda avait perdu un peu de son autorité naturelle. Un sourire sur les lèvres, elle semblait savourer une plaisanterie qu'elle était seule à comprendre. Sculpté, doré et peint en rouge et blanc, son fauteuil n'était pas très loin d'un trône. Le couvert était mis pour deux, l'invité étant presque certainement la sœur grise. Egwene entrait pour la première fois dans les appartements privés d'une chère d'Amerline. Pourtant, elle imaginait sans peine ceux de Xuan. Des lieux simples, avec juste ce qu'il fallait de décorum pour indiquer qu'ils abritaient une personne importante. Rien d'ostentatoire, cependant, afin de ne pas accaparer l'attention. Sous le règne de Xuan, chaque objet devait avoir une fonction, et peut-être plusieurs. Des guéridons avec compartiments secrets, des tapisseries qui dissimulaient des cartes, ou emportaient une imprimée au verso. Des épées décoratives affûtées et huilées, au cas où les champions en auraient eu besoin. Enfin, Egwene se faisait peut-être des idées. Non contente de choisir d'autres appartements, Elaïda avait forcé sur la décoration. Toutes les pièces n'étaient pas terminées. Selon les rumeurs, elle en annexait une nouvelle presque chaque jour. Mais le résultat promettait d'être impressionnant. Dans la salle à manger, des tentures et des tapisseries flambant neuves couvraient les murs et pendaient du plafond. Théarien, bien entendu, le tapis géant, si finement tissé qu'on aurait pu le prendre pour un tableau, représentait des oiseaux en plein vol. Tous d'un style différent, les meubles avaient pour point commun la finesse de leurs sculptures et de leurs incrustations d'ivoire. Les motifs, eux, allaient des incontournables vignes aux serpents entrelacés, en passant par des figures géométriques. Mais il y avait pire que ces coûteuses extravagances. L'étole qui reposait sur les épaules de l'usurpatrice comptait 6 couleurs. Oui, 6 rayures, et pas 7. Bien qu'Egwene n'ait pas choisi un aja, elle aurait opté pour le vert. Ça ne l'empêcha pas de frémir de rage en constatant l'absence du bleu sur l'étole. Même la chair d'Amirli n'avait pas le droit d'abolir un aja. Fidèle à sa tactique, Egwene tint sa langue. L'enjeu de cette soirée, c'était de survivre. Pour le bien de la tour, elle encaissait chaque jour des punitions. Supporter l'arrogance de Elaïda ne serait pas pire.
« Pas de révérence !» siffla Elaïda lorsque la prisonnière avança. « Tu es une tête de mule, on m'a prévenu. Après ce dîner, va donc voir la maîtresse des novices et informe-la de ta transgression. Que dis-tu de ce programme ?»«
Que tu aies pour la tour une infection pire que toutes les maladies qui ont un jour frappé Tarvalon et que... »
Egwene détourna le regard d'Elaïda et, honteuse jusqu'à la moelle des os, baissa humblement la tête. Interprétant ce geste comme il le fallait, la dirigeante éclata de rire.
Franchement, je m'attendais à plus de résistance. On dirait que Sylvana connaît son travail. Une bonne nouvelle. Je craignais qu'elle ait tendance à se relâcher, comme tant d'autres sœurs. Bon, si tu te bougeais un peu, ma fille, je n'attendrai pas jusqu'à minuit pour dîner.
Les poings serrés, Egwene ne lâcha pas un mot. Contre un mur, une longue table de service proposait une série d'assiettes d'argent couvertes d'une cloche. Des plats chauds, si on en jugeait par la condensation sur la protection également en argent. Une soupière, elle aussi en argent, complétait le dispositif. Du coin de l'œil, Egwene vit que la sœur grise était toujours plantée près de la porte. La pauvre semblait terrifiée. Egwene n'avait jamais vu une Aes Sedai dans un tel état de panique. Qu'est-ce qui pouvait expliquer ça?
« Viens, Maïdani !»
lança Elaïda à son invité.
« Tu veux rester debout toute la soirée ?»
Egwene réussit de justesse à cacher sa surprise. « Maïdani ? Une des sœurs chargées par Sheriam et compagnie d'espionner la Tour Blanche ?» Alors qu'elle soulevait les cloches l'une après l'autre, la prisonnière jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Maïdani avait enfin pris place sur un siège nettement plus sobre à côté de Laïda. Pour dîner, la sœur grise se mettait-elle toujours sur son 31 ? Des émeraudes brillaient à son cou, et sa robe de soie verte très chic mettait en valeur sa poitrine. Des seins qui auraient paru tout à fait normaux chez une autre femme, mais avec sa minceur. Déonine affirmait avoir prévenu les espionnes grises qu'Elaïda les avait démasquées. Dans ce cas, pourquoi Maïdani n'avait-elle pas quitté la tour? Qu'est-ce qui la retenait ici? Au moins, sa panique était compréhensible.
Maïdani,
dit Elaïda, après avoir bu une gorgée de vin.
Tu es blanche comme un linge aujourd'hui. Tu es sûre de t'exposer assez au soleil? J'ai passé beaucoup de temps sur des archives historiques, Elaïda. Aurais-tu oublié? Oui, oui, c'est vrai. Je tiens à savoir ce qu'on faisait aux traîtresses par le passé. À mes yeux, la décapitation semble une punition trop... primaire. Les femmes qui ont brisé la tour, celles qui se rengorgent de leur trahison, mériteront un châtiment très spécial. Continue tes recherches, ma chère.
Maïdani posa les mains sur ses genoux. À la place d'une Aes Sedai, n'importe qui d'autre aurait eu le front lustré de sueur. Les phalanges blanches, tant elles serraient la louche, Egwene remua la soupe. Elaïda savait pour Maïdani. Et pourtant, elle l'invitait à dîner. Un jeu pervers.
Plus vite, ma fille!
Lança Elaïda à Egwene. La prisonnière prit la soupière par ses anses, encore chaude sous ses doigts, et approcha de la table. Là, elle remplit deux assiettes creuses d'un bouillon brunâtre où flottaient des champignons appelés couronne de la reine. Le potage était si poivré que tous les autres goûts devaient disparaître. Avec toute la nourriture avariée, sans épices, la soupe aurait été immangeable. Egwene travaillait comme un automate, ou la roue d'une charrette tirée par des bœufs. Aucune initiative à prendre, pas un mot à prononcer. Travailler, voilà tout. Les assiettes servies, elle alla chercher le panier de pain et posa un petit morceau, pas trop croustillant, sur chaque soucoupe. Faisant un nouvel aller-retour, elle ajouta une jolie rosace de beurre, coupée avec une parfaite précision dans une grosse motte. On ne grandissait pas dans une auberge sans apprendre à servir à table. Tout en travaillant, Egwene bouillait intérieurement. Chaque pas était une torture. Et pas à cause de son postérieur en feu. La douleur physique, bizarrement, passait au second plan. En revanche, se taire et ne pas rentrer dans le lard de l'usurpatrice était une torture. Alors que les dîneuses s'attaquaient à leur soupe, en faisant mine de ne pas voir les charançons dans le pain, Egwene se retira près de la table de service et attendit, les mains croisées dans le dos. Elaïda lui jeta un coup d'œil et sourit, ravie par ce qu'elle prenait pour un signe de soumission. En réalité, Egwene se forçait à ne pas bouger, pour ne pas foncer sur l'usurpatrice et la gifler à la volée. Par la lumière, que c'était difficile.
De quoi parle-t-on à la tour, Maïdani?
Demanda Elaïda en trempant le pain dans sa soupe.
Je n'ai guère le temps d'écouter.
Elaïda se pencha vers sa proie.
Oh, tu sais sûrement quelque chose. Tu as des oreilles comme tout le monde, et même les sœurs grises doivent bavarder. Que disent-elles au sujet des renégates?
Maïdani devint encore plus blême.
Eh bien,
soupira Elaïda.
Quand nous étions novices, tu n'étais pas si gourde, me semble-t-il. Ces dernières semaines, tu ne m'as guère impressionné. Je me demande au nom de quoi on t'a un jour donné un châle. Tes épaules ne sont peut-être pas faites pour le porter.
Maïdani écarquilla les yeux.
Voyons,
fit Elaïda.
« Je te taquine. Continue à manger. »
Une taquinerie, en faisant allusion à une terrible exaction. Avoir dépouillé une femme du châle, l'humiliant au point qu'elle soit obligée de fuir la tour. Lumière, qu'était-il arrivé à Elaïda? Quand Egwene l'avait connue, elle était sévère, mais pas tyrannique. Le pouvoir, peut-être? Chez Elaïda, accéder au titre suprême avait transformé la rigueur en maniaquerie et la sévérité en cruauté. Mais Idani osa enfin relever les yeux.
« J'ai entendu des sœurs s'inquiéter au sujet des Séanchaniens. »
Elaïda eut un geste nonchalant.
Pour nous menacer, ils sont bien trop loin. Je me demande s'ils n'œuvrent pas en secret pour le dragon réincarné. Quoi qu'il en soit, d'après moi, les rumeurs qui les concernent sont lourdement exagérées.
Elaïda regarda Egwene du coin de l'œil.
« Depuis toujours, les gens qui croient tout ce qu'ils entendent me font bien rire. »
Egwene en resta muette. Heureusement, en un sens. Si les Séanchaniens avaient mis un collier autour de son cou d'idiote, pour sûr qu'elle en aurait rabattu. Parfois, Egwene sentait encore sur sa gorge le contact de la dame, impossible à déplacer. Tout d'atroce démangeaison. À l'occasion, elle avait encore des vertiges en bougeant. Comme s'il lui semblait anormal de ne pas être prisonnière, le bout de sa laisse en argent accroché à un clou dans le mur. Elle se souvenait très bien de ses rêves, et ne perdait jamais de vue qu'ils étaient prophétiques. Les Séanchaniens frapperaient directement la tour blanche. Mais Elaïda, à l'évidence, n'avait pas tenu compte de ses avertissements. D'un geste, elle indiqua à Egwene de resservir de la soupe.
Non, Meidani, les Séanchaniens ne sont pas une menace. Le problème, c'est le manque de discipline des Aes Sedai. Que dois-je faire pour que ça c'est ridicule pour parler? Et combien de sœurs devront subir des pénitences avant de reconnaître mon autorité?
La dirigeante tapa avec sa cuillère sur le bord de son assiette. Egwene reprit la soupière et s'empara de la louche.
« Si les sœurs avaient été disciplinées, »
reprit Elaïda,
« la tour ne serait pas divisée, et les renégats auraient obéi au lieu de s'enfuir comme une volée de moineaux. Du coup, le dragon réincarné serait entre nos mains, et nous en aurions terminé avec ces affreux types qui se forment dans leur tour noir. Qu'en penses-tu, Meidani ?»«
Je... Eh bien... L'obéissance est une vertu nécessaire. »
Tandis qu'Egwene la servait, Elaïda secoua la tête.
Tout le monde admet ça. Ma question c'est, que faire? Heureusement, j'ai ma petite idée. N'as-tu jamais été frappé par quelque chose au sujet des trois serments? Aucun ne mentionne l'obéissance à la tour blanche. Les sœurs ne doivent pas mentir, n'ont pas le droit de fabriquer une arme qui permette à des hommes d'en tuer d'autres, et il leur est interdit d'utiliser le pouvoir pour combattre, sauf en cas de légitime défense. Depuis toujours, ces serments, je les trouve laxistes. Pourquoi cette absence d'engagement à obéir à la chair d'Amirline? Si nous y étions toutes contraintes, tu imagines combien de douleurs et de malheurs nous seraient épargnés. Je crois qu'une réforme est d'actualité.
Egwene ne broncha pas. Au début, elle n'avait pas mesuré non plus l'importance des trois serments. Bien des novices et des acceptés, supposait-elle, devaient avoir les mêmes doutes. Comme il convenait, devenue une Aes Sedai, elle avait révisé sa position. Les trois serments étaient l'essence même des Aes Sedai. Grâce à eux, les sœurs faisaient ce qu'il fallait pour le monde. Et elles étaient protégées des pires accusations. Une réforme. Un désastre sans précédent, plutôt. Elaïda aurait dû le savoir. Souriant d'aise, l'usurpatrice s'attaqua de nouveau à sa coupe, sans doute en pensant au quatrième serment qui porterait son nom. Ne voyait-elle pas à quel point ça minerait les fondations de la tour? Du statut de dirigeante, la chair d'Amirline passerait à celui de despote. Egwene aurait juré que son sang était beaucoup plus chaud que la soupe. C'était Elaïda de malheur. La cause des problèmes de la tour, c'était elle. Même chose pour la division. En plus, elle avait fait capturer Rand pour qu'elle soit rouée de coups. Un désastre, cette idiote. Egwene s'avisa qu'elle tremblait. Encore quelques minutes, et elle fondrait sur Elaïda pour lui dire ses quatre vérités. Certains torrents n'étaient pas endigables.
Non, si j'agis ainsi, ma guerre se terminera ce soir, et j'aurai perdu.
Pour éviter une catastrophe, Egwene fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Laisser tomber la soupe. Le liquide brunâtre se répandit sur les oiseaux multicolores du tapis. Avec un juron, Elaïda se leva et recula pour ne pas être touchée par cette marée. Sur sa robe, il n'y avait pas une goutte. Un crève-cœur. Très calme, Egwene saisit une serviette sur la table et commença à éponger.
« Crétine maladroite !»
grinça Elaïda.
« Je m'excuse, »
souffla Egwene.
« J'aimerais tant que ce ne soit pas arrivé. »
La stricte vérité, sauf qu'elle parlait de tous les événements de la soirée, et même bien au-delà. Elle aurait aimé qu'Elaïda ne dirige pas la tour, que celle-ci n'ait jamais été divisée, qu'elle n'ait pas renversé la soupe. Mais c'était fait, et à présent, il fallait nettoyer.
« Ce tapis vaut plus que ton village entier, naturel !»
rugit Elaïda.
« Meidani, aide-la !»
La sœur grise n'émit aucune objection. Avisant un seau où avait dû rafraîchir du vin, elle s'en empara et vola au secours d'Egwene. Gagnant une porte au fond de la pièce, Elaïda héla des serviteurs.
« Fais-moi appeler chez toi !»
souffla Egwene quand Meidani s'agenouilla à côté d'elle.
« Pardon ? Fais-moi parvenir une convocation. Nous devons parler. »
À l'origine, Egwene avait décidé d'éviter les espionnes de Saludar, en laissant Béonine être sa messagère. Mais elle avait trop de questions à leur poser. Pourquoi Meidani n'avait-elle pas quitté la tour? Quels étaient leurs projets? Une autre d'entre elles était-elle devenue la favorite d'Elaïda, lui servant de souffre-douleur? Meidani jeta un coup d'œil à Elaïda, puis elle répondit.
« Je n'en ai peut-être plus l'air parfois, mais je suis une sœur, gamine. Donc je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. » « Je suis ta chère Damirline, Meidani, »
fit calmement Egwene, en essorant dans un pichet sa serviette imbibée de soupe.
« Tu serais inspirée de t'en souvenir. Sinon, les trois serments seront remplacés par le vœu de servir Elaïda jusqu'à la fin des temps. »
Meidani frissonna quand la dirigeante appela de nouveau au secours. À l'évidence, la pauvre sœur grise avait eu des temps difficiles ces dernières semaines. Egwene lui posa une main sur l'épaule.
« Elaïda peut être renversée, Meidani. » Après, la tour sera réunifiée. Je ferai en sorte que ça arrive, mais il ne faut pas perdre courage. Fais-moi signe.
Meidani leva les yeux du sol.
Comment fais-tu? On raconte que tu subis 3 ou 4 séances par jour, et qu'il te faut une guérison après chacune pour tenir le coup. Comment supportes-tu ça? J'encaisse parce qu'il le faut,
répondit Egwene.
Comme nous le faisons toutes. Espionner Elaïda est difficile, ça se voit, mais... sache que ton travail est reconnu à sa juste valeur.
Egwene n'aurait pas juré que Meidani était spécifiquement chargée d'espionner Elaïda. Mais penser qu'on souffrait pour la bonne cause s'avérait toujours réconfortant. D'ailleurs, la remarque sembla avoir fait mouche, car Meidani se redressa, le moral regonflé, et murmura un merci qui venait du cœur. Elaïda approcha, suivie par 3 servantes.
« Fais-moi signe !»
ordonna une dernière fois Egwene dans un souffle.
Dans la tour, je suis une des rares personnes qui ait une bonne excuse pour traverser les quartiers de tous les ajats. Je peux réparer ce qui a été brisé, mais j'aurai besoin de ton aide.
Meidani hésita, puis finit par murmurer.
Très bien, oui.
Toi!
Rugit Elaïda en fondant sur Egwene.
Hors de ma vue! Dis à Sylviana de te flageller comme elle ne l'a jamais fait à une femme. Je veux qu'elle te massacre, puis qu'elle te guérisse avant de te tabasser à nouveau. File!
Egwene se leva et tendit sa serviette à une des servantes, puis elle se dirigea vers la sortie.
« Et ne va pas croire que ta maladresse t'exemptera de service. Très bientôt, tu devras de nouveau officier pendant mon dîner. Et si tu renverses une goutte de quoi que ce soit, tu passeras une semaine dans une cellule sans fenêtre ni lumière. C'est compris ?»
Egwene sortit dignement. Cette furie avait-elle été un jour une Aes Sedai capable de contrôler ses émotions? Cela dit, la prisonnière avait perdu la maîtrise des siennes. Parce qu'elle n'aurait jamais dû se mettre dans la situation de devoir lâcher la soupe pour faire diversion. En clair, elle avait sous-estimé le pouvoir de nuisance de Laïda, mais elle ne commettrait pas 2 fois la même erreur. En marchant, elle se calma un peu.
On ne s'énerve pas contre un renard qui a mangé des poules. On pose un piège et on se débarrasse de lui. La colère n'a rien à voir là-dedans.
Les mains sentant toujours le poivre, Egwene descendit jusqu'au premier niveau de la tour, où se trouvait le réfectoire des novices à côté des cuisines. Ces 9 derniers jours, elle avait sué sang et eau sur les chaudrons à récurer. Toutes les novices croulaient sous les corvées. L'odeur des cuisines, un mélange de fumée, de charbon de bois, de soupe qui mijote et de savon à récurer, lui était des plus familières. À dire vrai, elle ne différait pas beaucoup de celle qui flottait dans la cuisine de l'auberge paternelle à Chandemonde. Dans la grande salle vide, Egwene repéra un plateau solitaire en regard d'une place. Dessus, une assiette refroidissait malgré le couvercle censé l'en empêcher. Sur le banc, Enovis avait laissé son coussin pour ménager ses fesses douloureuses. Même si le geste la touchait, Egwene poussa le plateau et s'assit à côté du coussin. Sous le couvercle, elle découvrit une portion de la soupe qu'elle venait de renverser. Pas trace du plat principal, de la viande en sauce avec des haricots qui figurait sur le menu de l'Aïda. Ça restait de la nourriture et l'estomac de la prisonnière fut ravi de s'en remplir. Et l'Aïda n'ayant pas ordonné qu'elle file sans tarder se faire punir, l'ordre de Sylviana avait la préséance. En tout cas, c'était suffisamment interprétable pour qu'elle ne risque pas grand-chose. Seule, elle se restaura sans hâte. Trop poivrée, la soupe lui emporta la bouche, mais elle ne s'en soucia pas. À part ça, elle était plutôt bonne. En plus, on lui avait laissé aussi un peu de pain. L'entame de la miche, mais c'était mieux que rien. Tout bien pesé, un repas convenable pour quelqu'un qui redoutait déjeuner. En mangeant, Egwene écouta Laras enguirlander les filles de cuisine qui s'occupaient de tout ranger. Son propre calme finit par l'étonner. En elle, quelque chose avait changé. Être en face de l'Aïda, la femme à qui elle s'opposait depuis des mois, la forçait à regarder sous un nouvel angle tout ce qu'elle avait fait jusque-là. Elle était partie avec l'idée de décrédibiliser l'Aïda, afin de prendre en douceur le contrôle de la tour. Décrédibiliser l'Aïda? Inutile de perdre son temps avec ça, elle s'en chargeait toute seule. Par exemple, on imaginait la réaction des représentantes et des dirigeantes des Aja quand elle annoncerait son intention de réformer les trois serments. Et l'Aïda serait renversée, qu'elle y contribue ou non. Mais le devoir de la vraie chère Damirli n'était pas d'accélérer le processus. Non, sa mission, c'était d'empêcher la tour de s'écrouler avec ses occupantes à l'intérieur. La désunion était allée trop loin. L'enjeu serait désormais de barrer le chemin au chaos et de réunifier la tour. Quand elle eut saucé le reste de soupe avec son morceau de pain, Egwene comprit qu'elle devrait faire son possible pour soutenir les Aes Sedai livrés aux fantaisies de l'usurpatrice. Le temps pressait, vraiment. Sans guide, quel mal Rand faisait-il au monde? Et laisser Anshanien, quand déciderait-il d'attaquer le Nord? Pour atteindre Tar Valon, il devrait passer par Andorre, une série de massacres en perspective. Avant leur arrivée, elle aurait un répit, mais il ne faudrait tout de même pas traîner. Egwene emporta son assiette dans la cuisine et la lava, un civisme qui lui valut un regard approbateur de Laras. Après, elle prit le chemin du bureau de Sylviana. Sa pénitence, espérait-elle, serait vite expédiée, parce qu'elle avait l'intention d'aller voir Léane, comme tous les soirs. Après avoir frappé à la porte, elle entra dans le bureau et trouva Sylviana en train d'étudier un épais grimoire à la lumière de deux lampes en argent. Dès que sa visiteuse fut là, la maîtresse des novices marqua sa page avec un ruban rouge, puis ferma l'ouvrage. Egwene parvint à lire le titre. « Méditation sur une flamme vacillante ». Un essai sur l'ascension de plusieurs chairs d'Amirline. Étrange, ça. La prisonnière prit place sur le tabouret, sans trahir sa douleur toujours présente, et décrivit calmement sa catastrophique soirée, en omettant qu'elle avait fait exprès de renverser la soupe. Elle précisa cependant que c'était arrivé après qu'Elaïda eut claironné son intention de réformer les trois serments. Une nouvelle que Sylviana accueillit pensivement.
« Eh bien !»
dit-elle en se levant.
« La chère Damirline a parlé !»«
Oui, j'ai parlé !»
fit Egwene. Sur ces mots, elle se leva et alla s'installer sur la table de torture, la jupe et le reste relevés. Sylviana hésita, puis abattit sa ceinture. Bizarrement, Egwene n'éprouva aucun désir de crier. C'était atroce, bien entendu, mais pas un son ne daignait sortir de sa bouche. Pas pour une punition si ridicule. En revanche, elle se remémora son chagrin, en voyant des sœurs se croiser dans les couloirs, méfiantes comme si elles allaient se sauter à la gorge. Et sa colère, quand elle avait été obligée de servir Elaïda sans dire un mot. Enfin, elle pensa au pire dans tout ça. Un avenir où toutes les sœurs, via un serment, seraient contraintes d'obéir à une chère Damirline folle et perverse. Elle songea aussi à la pauvre Meidani, qui ne méritait pas d'être traitée ainsi. Aucune sœur n'aurait dû subir pareil sort. L'incarcération, c'était une chose. Mais briser une femme et s'amuser avec elle en évoquant les tortures à venir, insupportable. Chacun de ces éléments était un poignard qui transperçait le cœur d'Egwene. Alors que son calvaire continuait, elle comprit que tout ce qu'on pourrait infliger à son corps n'égalerait pas sa souffrance morale. Voir la tour blanche torturée par Elaïda lui brisait le cœur. Comparé à ça, les coups de ceinture n'étaient rien. Soudain, elle éclata de rire. Pas d'un rire forcé, mais de défi. Le rire du doute et de l'incrédulité. Comment ces folles pouvaient-elles penser que la frapper résoudrait quoi que ce soit? C'était grotesque. Les coups cessèrent de pleuvoir. Surprise, Egwene se retourna. Ça ne pouvait pas être déjà terminé. Sylvana la regardait, l'air troublé.
« Mon enfant, ça va ?»«
Du mieux possible. »«
Tu es sûr ? Comment ça se passe dans ta tête ?»
Elle croit que j'ai craqué sous la pression. Elle me frappe et j'en ris tout haut. « Très bien. Mieux que jamais. Je ne ris pas parce que j'ai perdu la raison, Sylvana, mais parce que me flageller ainsi est ridicule. »
La maîtresse des novices se rembrunit.
« Tu ne remarques donc rien ? Et tu ne souffres pas de voir la tour blanche tomber en ruine devant tes yeux ? Une simple correction peut-elle être pire que ça ? »
Sylvana ne répondit pas.
« Je comprends enfin, »
pensa Egwene.
Je n'avais pas saisi ce que font les Aiel. M'endurcir. Voilà ce qui devait me permettre de rire de la souffrance. C'était mon idée et je me suis trompé. S'endurcir ne change rien. C'est comprendre qui fait la différence.
Abandonner la tour blanche et les sœurs. Ça, c'était susceptible de la briser. Étant la chair d'Amirline, elle devrait empêcher la catastrophe.
« Je ne peux pas refuser de te punir, »
dit Sylvana.
« Tu en as conscience. »
« Bien entendu. Mais s'il te plaît, remets-moi quelque chose à l'esprit. Qu'as-tu dit au sujet de Shemerin ? Pourquoi Elaïda a-t-elle pu la dépouiller de son châle ?»«
Parce que Shemerin a accepté la sentence. Elle a cru avoir pour de bon perdu son statut. Elle n'a pas résisté.
Je ne ferai pas la même erreur, Sylvana. Elaïda peut dire ce qu'elle veut. Ça ne changera pas ce que je suis, ni ce que nous sommes toutes. Si elle tente de réformer les trois serments, certaines sœurs se battront pour défendre ce qui est juste. En conséquence, quand tu me frappes, c'est sur la chair d'Amirline que tu t'acharnes. Selon moi, c'est assez amusant pour qu'on en rit toutes les deux. »
La séance continua. Egwene accueillant la souffrance comme si elle ne signifiait rien. Une idée l'obsédait cependant. Que ça finisse vite, parce qu'elle avait beaucoup à faire.